Pauline Pucciano, Titania 3.0. Chapitre 19. Au fil de l'eau. Titania avait le sommeil léger et la douleur à la nuque la réveilla à l'aube. Elle sortit doucement de la cabine, puis sur le pont, où elle fut saisie par le froid de la nuit finissante. La péniche n'était plus immobile comme la veille au soir, et Titania apercevait dans l'ombre les bords de la Seine qui défilaient comme sur un écran brouillé. La température, les odeurs, les bruits n'étaient pas ceux auxquels elle était habituée, et elle supposa qu'ils étaient sortis de Paris. Une envie pressante d'écouter de la musique la tenaillait, et l'absence de son Hervé se rappela à elle, comme presque à chaque instant depuis qu'elle avait dû y renoncer. La péniche voguait lentement, et lorsque les clartés du jour commencèrent à s'intensifier, Titania distingua des berges sinistres, flanquées d'usines de recyclage et d'hydroliennes. Comme un décor de théâtre flamboyant, Paris avait été escamoté et laissé place à la vérité toute nue de ses coulisses. Où se rendait-il? Où la vie l'emmenait-elle? Dans l'absolue et douloureuse destruction de ses repères, elle découvrait néanmoins un certain sentiment de liberté, une indifférence, une légèreté qui ne lui était pas familier. Elle se demanda à quoi elle ressemblait, dans les vêtements d'homme que Danton lui avait prêtés. Elle se demanda si ses courtisans l'avaient déjà oubliée. Elle pensa à sa mère aussi, et espéra que cette dernière regrettait de l'avoir abandonnée à son contrat spécial. La tristesse était pour l'heure plus forte que la colère. « Tu es matinale, » dit la voix de Mito, que Titania n'avait pas entendu sortir. « Toi aussi, » dit-elle. « Moi, je ne dors que d'un œil. J'ai perdu le sommeil en tombant dans la rue. On a des cycles courts, des nuits entrecoupées et l'impression de ne jamais être tranquille. Je ne pense pas pouvoir retrouver un sommeil normal un jour. Et toi ?»«
Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais bien dormi. » »«
Contrairement à Jean, on dirait. Il dort du sommeil du juste. » « Et c'est très bien comme ça, » dit Mito, « parce que c'est injuste, Jean. »«
Oui, il vaut beaucoup mieux que moi.
Il vaut beaucoup mieux que nous deux réunis. »
Titania sourit. Ils échangèrent un regard amical. « Sais-tu où nous allons ?»«
Dans la fameuse maison, je suppose. Tu sais, j'ai réfléchi. Je ne sais pas ce que vous allez faire, Jean et toi, mais moi, je vais demander à Danton et Robespierre s'ils n'ont pas besoin de mes services. »
Titania hocha la tête. « Je m'en doutais, et je pense que tu as raison. » Tu as été très doué pour me sauver, on dirait.
J'ai des tas d'informations à leur donner, qui pourraient enfin servir à quelque chose.
Des informations ? Demanda-t-elle.
J'ai été très proche de Charles Blandion, pendant des années. Il m'appelait son pet boy.
Titania cessa de sourire. Elle n'avait jamais remarqué que Mito avait de beaux traits, expressifs et réguliers.
Moi aussi j'ai servi d'animal de compagnie. Nous avons plus de points communs que je ne croyais, dit-elle.
Eh oui !
J'ai déjà rencontré Blandion quand j'étais petite, dans les soirées de gala, mais je ne m'en souviens pas. Tu crois que tout ce que nous savons de ce milieu pourrait être utile à la dissidence ?
J'en suis sûre, et je suis prêt à retrousser mes manches.
Leur conversation fut coupée par l'arrivée de Robespierre, et le début de la matinée se déroula dans une effervescence presque familiale. Danton était dans la salle de commande et surveillait la navigation semi-automatique, et tout le monde se rassembla quelque temps auprès de lui. Robespierre prit beaucoup de temps pour soigner Mito, tandis que Titania échangeait avec Danton quelques propos insignifiants et sereins. « La maison où vous nous emmenez, est-ce qu'elle est vraiment à l'abri ?»«
Il n'y a plus vraiment d'abri dans cet océan uniforme qu'est devenu le monde, mais il y a encore des recoins. »«
Cela devrait suffire alors, pour quelque temps. Je voudrais me poser quelque part, m'arrêter dans cette chute, le temps de reprendre mes esprits. »«
Bien sûr, » dit Danton, sans quitter la scène des yeux.
Pensez-vous que je pourrais un jour me connecter au réseau de manière sécurisée ?
Mais oui, il n'y a rien de plus facile. Nous avons un Hervé fantôme dans la péniche.
Le cœur de Titania se mit à battre plus fort.
Une machine indétectable ?
Oui, on peut recevoir tout ce qu'on veut et interagir sous certaines conditions assez simples. C'est assez difficile de s'en procurer un, mais celui-ci est en parfait état de marche.
Croyez-vous que...
Danton la dévisagea en souriant.
Là, tout de suite ? Demanda-t-il en hochant la tête.
« Oui, j'aimerais bien voir la retransmission de l'émission de Happenings où ma mère a promis d'apparaître. » Danton redevint sérieux, appela Robespierre, demanda à Titania de réveiller Jean, et quelques instants plus tard, les trois jeunes gens écoutaient les recommandations de sécurité pour l'utilisation du Hervé fantôme, une machine d'une banalité et d'une neutralité désespérante, mais qui paraissait faire son office.
Il faut être particulièrement vigilant pour tout ce qui concerne l'upload. Ne jamais entrer de mot de passe, de code, de données personnelles sans avoir démarré ce software et vérifier qu'il fonctionne. Ne jamais rien acheter. En revanche, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Le tunnel et le port sont entièrement sécurisés. Si le réseau réclame un identifiant, mettez toujours le même, la suite de chiffres qui s'affiche ici. Jean s'était réveillé en un clin d'œil, alerte, frais et dispo, comme si ces derniers jours n'avaient jamais existé. Il moulinait d'une manière visible et presque comique, 1000 idées à la seconde, plein d'un enthousiasme communicatif. « M'autoriserez-vous à l'utiliser pour poursuivre l'enquête de ma mère ?» demanda-t-il. Robespierre n'eut pas le temps de répondre, car le jingle de Happenings résonnait déjà dans la ligne de son Hervé. « Bienvenue au-delà de la fiction !» entonnait Stéphane Locard. « Aujourd'hui, cher Raisonnaute, un rebondissement inattendu et incroyable dans l'affaire qui vous remue l'âme depuis 48 heures. » Pour vous qui avez détourné les yeux de cette tragédie en black and white, une petite pilule mémoire. » Des images de Titania, lors de son interview près du Grand Palais, étaient montées sur un fond de musique électro-épique où s'incrustaient des morceaux de phrases. « Ma mère n'a pas supporté de me voir grandir. C'est à cette période que j'ai commencé à penser à la mort. Votre mère n'a-t-elle aucun moyen de vous sauver ? Je l'ai suppliée, il y a environ un an, de dénoncer le contrat. » Titania allait mourir et offrait à Happening sa dernière apparition publique, cher Raisonnaute, et vous serez heureux de savoir qu'elle s'est bel et bien rendue chez Morgan Corporation où, d'après mes sources, elle a été seulement endormie. Pourquoi ? Titania a-t-elle inventé cette histoire de contrat spécial ? Ou bien, comme semblent le suggérer certaines caméras de surveillance du boulevard des Capucines, on voyait ici des images tournant en boucle des HR transportant une jeune fille endormie en blouse stérile, et Mito ne put s'empêcher de s'écrier « Regardez, c'est moi !» Titania n'a-t-elle dû son salut qu'à un coup de force inattendu et ô combien romantique ? Deux versions incompatibles s'affronteront ici sous vos yeux, et ce sera à vous, dans le huis clos ténébreux de votre conscience, de décider de la vérité. La musique tournait à la scène de suspense, et Locard fit durer l'attente avec un art consommé. « Devant vous, pour régaler votre soif de justice, Happenings vous offre Irina Morgovic, star incontestée de la finance internationale, détentrice d'un portefeuille d'actions estimé à, roulement de tambour, 300 milliards de crédits, parangon de l'élégance, reine des galas de charité, mère ultra-médiatisée de la petite Daphné Morgovic. » Dans un tonnerre de faux applaudissements et de musique crépitante, Irina Morgovic apparaissait, calme, majestueuse et bienveillante, tellement habituée au plateau du réseau qu'elle ne semblait même pas intimidée. « Irina Morgovic, bonjour !»« Bonjour !»« Vous prétendez que Titania n'est pas votre fille, que le contrat spécial n'a jamais existé chez Morgan Corporation et que toute cette histoire n'est qu'un vaste enfumage médiatique, c'est bien cela ?»« C'est tout à fait cela, cher Stéphane, vous avez l'art de la synthèse !» Mais cela n'est pas l'avis de notre officier mystère qui, lui, soutient que Titania est bien Daphné Morgovic et qu'une enquête prioritaire était en cours hier pour la retrouver de toute urgence, une enquête commanditée par Irina Morgovic elle-même. Irina Morgovic éclata d'un rire argentin, perlé, un rire de diva si féminin, si souverain, d'une légèreté si calculée qu'il paraissait presque naturel. « J'ai hâte de croiser le fer avec votre officier mystère, mon cher Stéphane !» Un clip de multipub, un court-métrage prétentieux vantant à la fois en une minute les mérites d'une styliste, d'une marque d'implant capillaire, d'une main cybernétique de chez Blandion, d'un Hervé révolutionnaire de chez Lid et d'une pilule amincissante de chez Hillness, interrompit la retransmission. « Je n'arrive pas à le croire !» murmura Titania. Elle va probablement sortir une autre Daphné Morgovic, dit Jean, incrédule, et dire que la vraie n'est pas toi. C'est une autre manière de me tuer, dit Titania d'un air farouche. N'y a-t-il pas des preuves ADN à fournir dans ce genre d'allégations ? Demanda Robespierre. L'ADN se transforme aussi bien que tout le reste, dit Titania d'une voix blanche. C'est coûteux, mais c'est très rapide. Cela peut être fait en moins d'une heure. Avec des transformations ? Oui, cela prend du temps, mais c'est inévitable. C'est très utilisé dans le changement de genre. La musique revint, ainsi que le visage théâtral de Stéphane Locard, dont les airs de conspirateur ajoutaient au mystère. « Bienvenue dans un monde où la réalité dépasse la fiction, » dit-il. Et les Raisonnautes admirèrent la façon dont il parvenait à renouveler cette phrase mille fois répétée par des intonations toujours différentes.
« Officier mystère, pourquoi souhaitez-vous demeurer anonyme ?»
Un être humain non identifiable, apparaissant comme en un théâtre d'ombre, prit la parole d'une voix numérisée.
« Je crains d'être licencié si mon employeur vient à apprendre que je témoigne ici. »
« Qui est votre employeur ?»«
La police, et donc par le biais du conseil d'administration, en partie Madame Morgovic. »
« Pourquoi avez-vous peur d'être licencié ?»«
Il y a eu un licenciement hier, d'après ce qu'on raconte au bureau. »
« Un licenciement à quelle occasion ? L'officier avait-il commis une faute professionnelle ?»«
Oui, il a échoué à retrouver la fille qui s'est enfuie de chez Morgan Corp. »«
Qui est cette fille ?»«
On dit qu'il s'agit bien de la fille de Madame Morgovic. Son pseudo est Titania. »«
Et pourquoi était-elle recherchée ? Parce qu'elle n'a pas honoré un contrat manifestement illégal ? Ou parce qu'elle a produit un témoignage gênant ?»
La caméra fit un gros plan sur Irina, qui ne sourcilla pas en entendant ces demi-accusations. Elle avait un sourire un peu forcé, le genre de sourire que l'on ne peut s'empêcher d'avoir lorsqu'on est témoin d'une action méchante et drôle, ou lorsqu'on admire l'audace d'une personnalité provocatrice. Elle souriait exactement comme souriaient les raisonnautes, comme si elle n'était pas concernée.
Le commissaire n'a pas donné de raison, l'enquête était prioritaire, on n'a pas besoin de raison pour rechercher quelqu'un.
Eh bien, voilà une réalité policière qui s'éloigne plutôt radicalement de nos chères fictions des siècles passés. Ainsi donc, vous soutenez que Daphné Morgovic, alias Titania, a été activement recherchée par sa mère hier.
Et non seulement je soutiens la même chose, mon cher Stéphane, dit la voix très posée d'Irina Morgovic, mais je vous dirais même que les recherches ont porté leurs fruits. J'ai retrouvé Daphné.
Locard eut un petit sillement étonné, qui montrait que cette partie de la confrontation n'avait pas été préparée, et qu'il subissait, comme ses invités, les aléas du direct. Une jeune fille fort jolie, l'air un peu timide, apparut sur le plateau. Elle était habillée des mêmes vêtements de prix qu'Irina et était maquillée avec la même discrétion irréprochable. Elle ressemblait étonnamment aux photos de la petite Daphné Morgovic, dont les réalisateurs de l'émission inondaient à présent l'écran. En dessous d'une courte vidéo datant d'une dizaine d'années, où la mère et la fille chantaient ensemble la Marseillaise au profit de l'armée d'Orient, Irina Morgovic et la jeune fille, l'air très émue, se donnèrent la main avec pudeur et retenue. Stéphane Locard, comme tous les raisonnautes, fut frappé par cette ressemblance et laissa une musique pompeuse s'achever avant de reprendre la parole.
« Et la réalité dépasse la fiction » cria-t-il d'une voix un peu surjouée.
« Qui êtes-vous, mademoiselle ?»«
Je suis Daphné Morgovic, l'unique. »
Elle avait quelque chose comme un très léger accent et répondait avec assurance.
« Où étiez-vous pendant toutes ces années ?»«
Ma mère et moi avons eu nos différends, comme dans toutes les familles. » « J'ai longtemps vécu à l'étranger, mais aujourd'hui je souhaite revenir auprès d'elle. »«
Ce sont les policiers qui vous ont trouvé hier ?»«
Oui, ils avaient perdu la piste de cette Titania lorsqu'ils ont repris l'enquête concernant ma disparition. Ils m'ont contacté et me voilà. »
Stéphane Locard, un peu déstabilisé, se reprit. « Cher raisonnaute, cette nouvelle révélation jette un mystère supplémentaire sur notre ténébreuse affaire. Officier mystère, qu'avez-vous à dire ?»
La police n'a pas réussi à retrouver Titania.
Certes, mais a-t-elle trouvé Daphné Morgovic ?
L'ombre chinoise semblait hésiter.
Je ne suis pas au courant de cette partie de l'enquête, mes sources disent plutôt que la police était bredouille.
Notre police ? Bredouille ? S'exclama Irina d'un ton triomphant.
Allons, monsieur, vous plaisantez, nous avons la police la plus efficace du monde.
La jeune fille éclata d'un petit rire stupide. Stéphane Locard la dévisagea longuement, comme pour trouver l'illusion, la couture cachée.
Oserais-je dire que personne ici ne ressemble autant à l'enfant qu'il a été ? Ceci est proprement fabuleux, une telle ressemblance. La régie peut-elle nous donner les dernières photos en date de Daphné Morgovic ?
Des photos peu familières du public apparurent sur les écrans. Daphné a 15, 16 et 17 ans. Sa grâce enfantine partie, il restait une jeune fille assez banale qui se prêtait aux extravagances des photographes avec un désespoir provoquant. Elle était beaucoup moins jolie que la jeune fille sur le plateau. La finesse de ses traits, épaissie par l'adolescence, avait disparu. On voyait la femme qu'elle allait devenir, et ce n'était pas la jeune fille du plateau. Jean regarda Titania et vit des larmes sourdre de ses yeux violets. Il lui prit la main, qu'elle dégagea avec brusquerie. Il savait qu'elle avait honte de ses photos, honte de n'être pas plus belle, honte d'avoir été cette adolescente gauche et vaguement ridicule sur ses clichés professionnels.
« Vous reconnaissez-vous, Daphné ?» insista Locard, dont l'incrédulité était à présent manifeste.
« Bien sûr,
dit la jeune fille un peu mal à l'aise. Vous pourriez me rappeler les circonstances de cette photo ?
La photo qui s'affichait montrait Daphné en bikini, les cheveux volants au vent, probablement sur la Côte d'Azur.
C'était sur le tournage de cette publicité ridicule, cracha Titania entre ses dents.
La jeune fille, l'air perplexe, fronçait les sourcils avec affectation et faisait une moue très expressive pour indiquer qu'elle ne parvenait pas à s'en souvenir.
« La publicité pour Lead !» hasarda Irina, l'air mutin, comme si elle participait à une sorte de jeu. Stéphane Locard ne prit pas la peine de cacher son exaspération.
« Irina, vous trichez !» dit-il avec un grand sourire. « Nous savons tous, bien sûr, que vous vous souvenez très bien de chaque cliché de votre fille. Mais peut-être avez-vous raison, ce petit jeu ne mène à rien. » Ne laissons pas l'arbre cacher la forêt. Vous produisez une nouvelle fois votre fille Daphné Morgovic et nous vous faisons confiance pour que son pédigré soit irréprochable. Mais au-delà de cette passionnante histoire de réconciliation familiale, il est une autre histoire qui passionne les réseaunautes. Et il s'agit bien sûr de l'implication prétendue de Morgan Corporation dans des contrats spéciaux.
Irina, qui savait qu'elle était en train de gagner la partie, fut belle joueuse.
« Allez-y, mon cher Stéphane, je répondrai à toutes vos questions.
Niez-vous l'existence de ces contrats spéciaux, consistant à acheter le corps de quelqu'un à l'avance contre 1, 2 ou 3 ans d'une vie luxueuse ?»«
Je la nie totalement. Le trafic d'organes est un vieux sujet de film d'horreur, vous savez. Le commerce d'organes, parfaitement légal, auquel se livre Morgan Corp, n'a rien à voir avec cette imagerie grand-guignolesque. Il s'agit d'une marchandisation parfaitement banale de certaines parties de son corps. »
Pas de mort programmée.
Pas la moindre.
Titania n'avait pas de contrat chez vous.
Je suis désolée, Stéphane, je ne suis qu'actionnaire chez Morgan Corp et je ne connais pas le nom de tous nos clients.
Vous ne vous êtes pas renseignée après l'émission?
Mon Dieu, je suis une femme d'affaires, je ne l'ai même pas vue, cette émission.
Pourquoi Titania était-elle inconsciente lors de son enlèvement?
Probablement pour un prélèvement d'organes librement consenti.
Arrive-t-il souvent que les clients se fassent enlever chez Morgan Corp?
Mais non, voyons, c'est la première fois.
Donc vous partagez mon opinion. Titania n'était pas une cliente comme les autres.
Dans un certain sens, il est vrai que son enlèvement et son émission la rendent un peu particulière.
Cette fille est une imposture. Il n'y a qu'à consulter son compte OMS pour s'en rendre compte. Rien chez elle n'est réel, ni son nom, ni son corps, ni son passé. Comment avez-vous pu lui accorder la moindre confiance?
Quelle explication donnez-vous à ces agissements?
Moi? Mais je n'en ai pas. Je laisse la police faire son enquête.
Les moyens de la police sont-ils mobilisés à chaque problème interne de Morgan Corp?
Non, bien sûr.
Mais cette fois-ci, elle l'a été.
En effet.
Pourquoi?
Irina Morgovic marqua une pause et regarda Locard avec un regard aigu.
À cause du retentissement médiatique de l'affaire.
C'est donc un peu ma faute?
Demanda Locard en riant.
Un peu. Fit Irina sur le même ton.
Je demande la parole, fit l'officier mystère d'un ton brusque.
Nous vous la donnons plus que volontiers, enchaîna Locard. Parviendrez-vous à déstabiliser la royale, la souveraine, la majestueuse Irina Morgovic?
J'aimerais savoir si elle est au courant de l'implication de son avocat dans une affaire d'homicide.
La caméra, pendant la question, fit un gros plan sur le visage d'Irina, et tous les réseaunautes purent voir, l'espace d'un instant, la panique se peindre sur le visage au modelé parfait. Cela fut très bref, mais les techniques modernes étaient impitoyables et ce naufrage serait montré en boucle sur Happenings.
Locard, silencieux, jubilait.
Irina devint froide. « Votre émission ne m'a pas habituée à ces calomnies de bas étage, mon cher Stéphane. Cela n'était pas convenu. »«
Ce sont les merveilles du direct, ma chère Irina. » s'empressa de répondre Locard, « et nous allons vous donner quelques minutes pour affiner votre stratégie. Place à la multipub !»
Dans la péniche, tout le monde observa un instant de silence.
« Qui est cet officier mystère ?» demanda Jean au bout d'un moment.
« Probablement un simple porte-parole de Locard, » répondit Danton d'un air consterné. « Cela lui permet de divulguer des informations tout en conservant une apparente neutralité. »
« Je me demande si ce n'est pas cet officier à qui j'ai eu affaire, » remarqua Jean.
« Nous ne le saurons jamais, » trancha Titania, « tout comme nous ne saurons jamais comment ma mère a eu le temps de faire un casting pour trouver une parfaite version de moi-même. Tu as entendu? Elle n'est même pas française. »
L'émission reprenait déjà et tout le monde se tut.
« Chers réseaunautes qui nous rejoignez à l'instant, Sachez que l'affaire du contrat spécial vient de connaître les plus audacieux rebondissements. Irina Morgovic aurait retrouvé sa fille disparue depuis plusieurs années, tandis que notre invité mystérieux accuse son avocat de tremper dans une affaire de meurtre. La parole est à l'offensée Irina, nous vous laissons un entier droit de réponse. Je n'ai aucun commentaire à faire. Avant de quitter le plateau, j'aimerais simplement répéter que nous sommes victimes, ma fille et moi, de notre célébrité. Cette Titania, ou Dieu sait quel est son véritable nom, n'est qu'une image de synthèse, un fantôme virtuel. Elle n'a aucune existence légale, et d'après mes informations, elle est actuellement en fuite et dans l'illégalité, hors réseau. Son sinistre canular a bien failli coûter sa réputation à mon entreprise familiale, et je la poursuivrai sans relâche pour préjudice moral et financier, si toutefois elle refait surface. Ma fille, ma véritable fille, heureusement, elle l'a à mes côtés, comme elle l'a toujours été dans l'adversité. Je suis émue de l'avoir retrouvée, et je dirais pour conclure que c'est finalement un mal pour un bien, puisque cette mise en scène grotesque m'a au moins permis de reprendre contact avec elle. « Daphné, une remarque avant de partir ?» demanda Locard. « Peut-être une anecdote familiale sur Irina ou sur vos grands-parents ?» La jeune fille eut un bref échange de regards avec Irina Morgovic. « Elle est très autoritaire, et je crois qu'elle a décidé de partir, » dit en riant la jeune fille pour noyer le poisson. Irina Morgovic la saisit par le bras, d'un geste assez brusque, et une musique de cirque salua leur départ. Stéphane Locard fit quelques moues comiques en les regardant s'éloigner, et sous un nouveau tonnerre d'applaudissements, il reprit la parole. « Officier mystère, à présent que nous sommes en tête-à-tête, dites-nous, quel est votre sentiment sur Daphné Morgovic ? Elle ne correspond pas aux informations que nous avons rassemblées sur elle. Et que pouvez-vous nous dire sur cet énorme pavé que vous avez jeté dans la mare ? Comment s'appelle l'avocat de Madame Morgovic ? Maître Régenville. Dans quelle affaire de meurtre serait-il ? Compromis ? » Il y eut un roulement de tambour et une pause théâtrale. « La régie me demande de rendre l'antenne, » dit Stéphane Locard d'un air narquois. « Juste un nom ?» Le juge mal fini. Les dernières syllabes furent presque coupées. Un nouvel écran de multipub avait remplacé la retransmission. Danton éteignit machinalement le Hervé. « Je vous présente ma mère, » dit Titania d'un air sombre. Puis, sans crier gare, elle se retira dans la cabine où Jean ne réussit pas à entrer. Danton avait repris le pilotage et Robespierre et Mito se tenaient silencieux à ses côtés. Quand Jean les rejoignit, Mito ne put s'empêcher de parler. Danton, Robespierre, Titania, Mito. Il n'y a que toi qui portes ton vrai nom, Jean. Mais sa remarque tomba à l'eau, car personne ne la releva. Vous disiez que ma mère enquêtait justement sur l'affaire Malfini, observa Jean au bout d'un silence. Oui, confirma Robespierre. Nous allons avoir du temps sur l'île. Si nous reprenions cette enquête. Danton et Robespierre se consultèrent du regard. Ces deux-là avaient à peine besoin de parler pour se comprendre. « C'est tout à fait compréhensible que tu veuilles reprendre le flambeau d'Olympe, » dit Danton. « Mais il faut que tu sois conscient des risques. Et Titania, eh bien, elle ne doit pas en faire une affaire de vengeance personnelle. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la dissidence. »« Je pense qu'elle a soupé de ce milieu des corporations tout comme moi, et que sa révolte est aussi politique, » dit Mito. « Laissez-lui le temps de digérer tout ça. » Jean le regarda avec reconnaissance. Mito n'était pas sûr de croire à ce qu'il disait, mais cela sonnait juste. Titania ne cessait de le surprendre. « C'est une dure à cuire, » ajouta-t-il. « Nous avons tous des histoires personnelles à régler, » dit Jean. « Elle a un compte plutôt salé avec Morgan Corp, mais Mito en a un avec Blandion, et moi-même je cherche à suivre ma mère. Est-ce que ce sont forcément de mauvaises raisons pour s'engager ? Est-ce qu'on ne s'engage pas toujours pour de mauvaises raisons ?» Jean avait été éloquent, et les deux hommes soupirèrent. Il fut convenu que leur engagement serait discuté et organisé plus tard, avec Titania si elle le désirait. En attendant, Jean et Mito laissèrent les deux frères ensemble et se dirigèrent vers le pont. Au-delà des berges, on devinait maintenant un paysage défiguré, dans lequel un poison insidieux suintait de toutes parts. Dans les couleurs jaunies, le ciel vaguement brumeux, l'odeur aigre qui montait de la terre. « Est-ce qu'il y a vraiment une terre promise dans cette direction ?» demanda Jean d'un ton morne, au bout de presque une heure de silence. « Qui t'a parlé de terre promise ?»« Ma mère. »« Elle t'a donné des coordonnées, c'est tout. Les terres promises, on meurt avant de les atteindre. Faut revoir tes classiques. » Jean sourit. Mito avait ce pouvoir de le faire sourire, même quand il était au plus bas. Alors qu'il communiait dans une même consternation devant les déserts toxiques qui s'étalaient à perte de vue, Titania sortit de sa cabine. Elle était belle dans ses vêtements d'homme, Jean ne pouvait s'empêcher de rester stupide devant sa beauté, à chaque fois qu'il se réveillait le matin, ou qu'elle entrait de nouveau dans la pièce où il était, après une brève absence. Elle avait un air résolu, le même air qu'elle arborait dans la foule quand elle ne voulait pas qu'on l'aborde, l'air de la reine de chair et de diamants qu'elle ne cesserait jamais d'être à ses yeux, même décoiffée et tachée d'huile de vidange. « J'ai une idée, » dit-elle. Jean fut frappé par la profondeur soudaine de ses yeux violets, et tandis qu'elle parlait volubile à Mito, Ravi et à Danton et Robespierre qui se laissaient peu à peu séduire, il n'écouta pas un mot de ce qu'elle disait, trop occupé à assembler dans sa tête le poème qu'il lui réciterait le soir. Au dernier coup, reine de feu et de vengeance, alors que ton palais se noyait dans l'abîme, que s'éteignaient les derniers feux de ton enfance, que ta beauté soldée t'avait livrée au crime, au dernier coup, lorsqu'il ne te restait plus rien de ton royaume de fragile féerie, de tes furtives illusions, lorsque les chiens se repaissaient déjà de ton corps nu, sans vie, sans béquille, sans phare, sans implant, sans armure, dans un monde de fer, de douleur et de boue, tu as trempé ton âme au sang de ta blessure, et je t'ai vu, grandi, te remettre debout.